Bonjour Michel Borde.
Bonjour Marie-Madeleine.
Dont nous venons d'entendre...
All Blues.
Voilà, de Miles Davis. Puisque, bon, la pièce s'intitule Miles Davis ou le coucou de Montreux. Donc je vais peut-être vous proposer que nous, brièvement, que vous vous présentiez, puisque vous êtes et musicien et comédien, et
c'est bien ça.
Musicien peut-être avant...
j'ai les deux pratiques, les deux formations, mais j'ai commencé par le théâtre. Mm-hmm. Et je faisais de la musique classique, et puis à un moment donné, je me suis intéressé au jazz, et mm-hmm. j'ai pratiqué et travaillé la musique jazz, essentiellement, mm-hmm. pour me produire, surtout dans la musique, puisque mm-hmm. j'ai laissé le théâtre de côté. Mm-hmm. Et puis par...
Et le goût du théâtre est revenu après, c'est ça ?
Il est revenu par la voix, en mm-hmm. fait.
En chantant, vous voulez dire ?
Non, en travaillant la voix, les sons vocaux, l'improvisation, le chant spontané, le chant diphonique. J'étais très, très, très intéressé par, en fait, la corporealisation de la voix, le travail qu'on trouve aussi dans le théâtre, bien sûr. Et de fil en aiguille, je suis revenu sur le travail du texte. Et de là est née l'envie de joindre ces deux pratiques et ces deux envies de pouvoir m'exprimer à la fois avec la musique.
Dans un même spectacle.
Dans un même spectacle, mmh. voilà.
Et donc vous pouvez nous raconter justement comment vous avez eu connaissance de ce texte d'Annie Mankell, donc cet auteur suédois qui a beaucoup écrit et pour le théâtre et les romans et qui lui-même, je ne sais pas si vous le savez, pour la petite histoire, il est très jeune, il est venu à Paris quand il avait 16-17 ans.
16 ans, il est parti en stop de sa ville natale.
Et il a travaillé dans un magasin
de clarinettes. Ouais. Voilà, il était pendant 6 mois, il a travaillé dans un magasin de réparation de clarinettes et de saxophones. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné l'idée. D'après écrire sur Miles Davis. Alors en fait, on avait le projet avec la metteur en scène Sylvie Garel, qui est basée à Chartres, de travailler ensemble et de monter donc un spectacle autour de la musique et du théâtre.
Et du théâtre, hein. Ouais.
Et en fait, Annie Mankell avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Des jours et des nuits à Chartres ». Et donc cette metteur en scène est allée se procurer la pièce, et à la fin de la pièce, c'est les archéditeurs qui éditent la pièce.
Ouais, tous les textes de Mankell.
Il restait
en
fin de pièce, cette pièce-ci, Miles Davis ou le coucou de Montreux. Mmh. Et
ça vous a interpellé, c'est ça ?
Ça a interpellé complètement. C'était vraiment le déclic qui a fait qu'on a pu avoir un support de travail, et ça a très bien fonctionné. Tout en précisant que le projet que nous présentons, c'est une adaptation. En fait, au départ, ce texte est écrit pour un trio de jazz avec un récitant.
Ouais.
Le récitant...
un soliloque, d'une certaine manière.
C'est ça, c'est exactement ça. Et donc,
narre la rencontre d'un monsieur.
Oui, d'un homme, un ouvrier, un artisan.
Qui n'est pas spécialement baigné qui n'a pas baigné spécialement dans un milieu musical et qui fait une rencontre. Rencontre en Miles Davis, et là.
Il a le déclic.
Voilà, ça transforme sa vie.
Voilà,
ça l'éclaire, ça l'enchante.
C'est exactement ça. En fait, il est le meilleur ami du chauffeur attitré de Miles Davis en Europe. C'est une histoire véridique. Miles Davis, quand il venait en Europe dans les années 60 pour les concerts, donc, il avait choisi ce chauffeur, dans la pièce qui s'appelle Stan Hague. Il avait choisi ce chauffeur parce qu'il n'aimait pas sa musique, et comme ça, il était sûr de ne pas avoir quelqu'un qui avait des intérêts à être proche de lui.
Mmh. Ah oui, d'accord, c'est une tactique.
Voilà, c'est ça. Il voulait avoir la paix, il voulait être avec un être humain en face de lui. Et puis, cette personne donc, invite le personnage central de la pièce, l'invite à assister à un festival de Montreux.
Donc, elle est à Montreux, en Suisse, où il y a un festival de jazz.
Voilà,
donc,
le fameux festival de jazz
Montreux,
de Montreux.
Qui est connu mondialement.
Ouais. C'est ça. Et en fait, ce concert a lieu en 1973. Et donc, il va assister dans les coulisses, à la préparative du concert. Il va assister un peu aussi à la concentration de Miles Davis, comment ça se passe avec ses musiciens, etc. Et puis, ça va le bouleverser et ça va l'ouvrir à ce qu'est la musique, ce qu'est les sons, ce qu'est l'environnement sonore. Et il va revenir chez lui... Transformé, c'est la pièce qui, qui l'image, mais sinon, ça va quand même le bouleverser à tel point que lui va se mettre à taper sur, sur ses épaves, sur ses portes, sur ses souffles dans les tuyaux d'échappement. Et il en trouve une joie et une ouverture à la vie qui est différente de celle qu'il avait.
Non, c'est une rencontre avec le monde des sons, là, parce que les sons, la musique, en face, voilà, quoi, c'est tout un ensemble, c'est... Et aussi, ça éclaire son contenu dans la mesure où vous dites qu'il commence à taper sur les outils avec lesquels il travaille tous les jours, les voitures, les cafés, voilà quoi. Alors qu'avant, il faisait son métier.
Il faisait uniquement son métier sans être dans une certaine fermeture. Donc en fait, c'est un message aussi.
De tout ce que peut apporter l'art.
L'art, exactement. La découverte de sa propre sensibilité que nous portons chacun.
Qu'est-ce que ça peut réveiller
en chacun de nous aussi, c'est une ouverture sur le côté vraiment humain de l'homme qui fait que par sa sensibilité, il va être touché par la beauté des objets, mais aussi des sons et de son environnement qui est là.
En fait, c'est une découverte dans sa vie, quoi, si on peut dire.
C'est une transformation.
Un apprentissage.
C'est aussi une transformation. Mais en fait.
De choses ont été passées à côté. Et il a fallu cette rencontre qui a été le déclic.
Qui a été le déclic et qui l'a ouvert à son âme humaine, quelque part. À tel point que. Il ne voit plus la vie de la même manière. Il est plus sensible donc à l'humanité, à sa femme aussi. Quand il était à Montreux, il l'appelle pour uniquement entendre le son de sa voix.
Oui, dans tout ce
voilà. Parce que le son porte aussi la sensibilité humaine, les sentiments.
En plus, c'est par appel téléphonique, dont déjà quelque chose de transformé. Enfin, et puis il y a la distance. Enfin, il y a tout ce, toutes ces subtilités qui naissent.
Qui naissent et auxquelles on n'est pas sensible forcément quand on est dans son monde, dans son travail, dans sa fermeture, en fait.
Mais donc, c'est, un véritable plaidoyer pour l'art. Bon, là, il s'avère que c'est la musique, mais ça aurait pu être une rencontre avec un peintre. Bon, ça n'aurait pas été les mêmes médiums, mais c'est l'art. Comment l'art peut influencer la vie de quelqu'un et comment on peut la transformer et lui ouvrir des portes qui jusque-là étaient fermées, c'est le cas de dire.
Oui, des portes sur la sensibilité. Alors oui, ça aurait pu être un autre médium. Il se trouve que Neil Mankel vive à l'alternance avec l'Afrique et la Suède.
Et avait des passages en France.
Des passages en France, donc
Nice.
Il devait être certainement ouvert à la condition noire, parce que c'est abordé aussi dans la pièce. Il devait être intéressé aussi par la musique et le jazz aussi. Alors pour en revenir à votre question, oui, ça aurait pu être un autre médium, mais là c'est la musique pour ces raisons-là. Donc puisqu'Anne Mankel devait être intéressé par le jazz et par la négritude, c'est une manière détournée aussi de parler de ces problèmes-là. C'est une manière détournée de parler du racisme, de la condition du musicien aussi aux États-Unis à cette époque-là, avec la différence de la condition des musiciens en France, puisque quand Miles Davis vient en France, il va découvrir qu'il peut être considéré comme un vrai être humain et pas comme un noir. Sa rencontre avec Juliette Gréco. Donc le monde de l'art aussi dans les années 50 à Paris, avec la rencontre de Miles Davis avec Picasso, Boris Vian,
avec tous ces artistes. Artiste, qui faisait les beaux jours de...
Voilà, c'était en 1949, son premier concert en France.
Mais parce que là, maintenant que vous évoquez Juliette Gréco, je crois que c'était, il me semble, que c'est avec lui où un soir, elle voulait aller au restaurant avec lui, et que la personne qui était, responsable du restaurant, lui a dit non, il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. Et elle lui a dit, mais là, qu'est-ce que... Et en fait, c'était parce qu'elle était accompagnée d'un monsieur. Et elle lui a craché dans les mains, du restaurateur.
Et elle est repartie.
Oui, oui. Voilà. Elle lui a craché dessus, elle lui a dit, comment il n'y a pas de place, elle est repartie. Parce que je l'avais entendu une fois, maintenant que vous parlez...
Oui, certainement, ça aurait certainement pu arriver, mais il faut dire quand même qu'en France...
Ah non, mais c'est arrivé l'histoire de ce que je racontais, j'ai dit Gréco.
Je n'avais pas en doute l'anecdote, mais simplement, je crois que c'était beaucoup plus facile quand même pour les artistes, les jazzmen, notamment nord-américains qui venaient en France. Ils étaient quand même mieux, ils sentaient la différence avec leurs conditions.
Ils étaient mieux reçus
mieux considérés
pour leur art et leur...
Voilà, en tant que personne, en tant qu'artiste.
En tant qu'artiste que chez eux. Souhaitez-vous que nous écoutions un extrait de...
J'aimerais bien, ça nous donnerait la possibilité d'écouter le son de la trompette de Mazievis, parce que l'une de ses caractéristiques, c'était quand même son son, où il y a une certaine fragilité dans le son qui a donné cette caractéristique de son trompette.
D'accord. Nous allons reprendre notre conversation. Donc, vous avez dit tout à l'heure en début d'entretien qu'au départ, dans cette pièce, c'était un récitant et un trio de musiciens. Donc, vous êtes seul en scène.
Oui.
Voilà, il n'y a que vous. Avec des différents, dans un décor assez fourni, si je puis dire. Oui. Donc, il y a le décor de cette case et puis il y a aussi des instruments.
Oui.
Donc, vous jouez de temps en temps, de façon comme ça.
Voilà, alors...
Vous avez pris... C'est-à-dire, voilà, ce que je voulais que vous évoquiez, c'est comment, justement, vous faites entre cet univers sonore, en tapant des fois sur quelque chose, après l'instrument dont de temps en temps vous jouez, deux instruments, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, ensuite les morceaux enregistrés, et puis bien sûr le texte, comment vous jouez avec tout ça?
Alors, en fait...
Et qu'est-ce que vous avez voulu, surtout, nous faire entendre de cette manière-là, en jouant comme ça entre les différents niveaux? Différents
alors,
univers.
Il y a un premier niveau, c'est pouvoir faire sentir au spectateur, à l'auditeur, la découverte du son. Donc, il y a...
Le son dans tous ses états,
Tous ses états. Donc, à un moment donné, il y a un travail percussif sur des tuyaux d'échappement qui vient évoquer comment Steinar, donc le personnage central, découvre les sons. Et on n'a pas voulu, donc justement pour ne pas tomber dans l'écueil de ce qui pourrait être un effet ping-pong entre un trio de jazz et le récitant, on voulait vraiment que l'instrument de musique, dans, là en l'occurrence au début la trompette et au milieu le saxophone, vienne comme un objet qui soit dans la mise en scène, qui est un liant, c'est-à-dire que le saxophone vient apparaître en même temps que les pots d'échappement, c'est-à-dire qu'il est au même titre qu'un pot d'échappement, pouvoir faire sentir la transition en fait entre l'objet sonore qui ne peut être que qui peut être simplement un tuyau d'échappement, mais aussi bien une théière ou une casserole dans la vie et le tube du saxophone qui vient d'abord dans une sonorité brute comme un objet sonore quelconque que l'on peut utiliser dans le quotidien. Et de là, de fil en aiguille, cet objet-là va être utilisé comme un instrument de musique. Parce que ce qu'on a rajouté dans la mise en scène, c'est que, en fait, Steinar, quand il revient du concert de Montreux et qu'il découvre les sons sur ces objets qui l'entourent, ses voitures, il va petit à petit à s'intéresser plus profondément à la musique, mm-hmm. au jazz. Il va se mettre à s'intéresser à la musique, mais en la pratiquant. Donc, mm-hmm. il a d'abord essayé la trompette, mm-hmm. c'est que, qui est mis en scène au début, en mm-hmm. intro. Mm-hmm. Et ensuite, il va commencer à pratiquer du saxophone. Donc, le saxophone est utilisé dans ses bruitages mm-hmm. un peu contemporains. Et pour après, petit à petit, venir sur des thèmes de jazz de Miles Davis. À un certain moment, pour à la fin, où il joue un blues avec une improvisation.
Mm-hmm. D'accord.
Est-ce que j'ai répondu donc, c'était donc, c'est à deux niveaux. Hein, mm-hmm. C'est pour faire sentir la progression entre l'objet brut qui peut oui, devenir oui. Un projet artistique.
Quelque chose de plus raffiné, quoi, de plus subtil et qui se travaille. Et voilà. Et qui devient... Il y a d'abord oui, la rencontre. L'écoute, et puis après, comment cela peut se transformer et comment cela peut aboutir à la création.
C'est ça.
Puisqu'après tout, malgré tout, bon, il y a les morceaux qui sont écrits, mais après, chaque musicien, lorsqu'il interprète, il y a quelque chose de lui, de toute façon.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on dit il y a des touchés de guitare, comme de pierre. Enfin voilà, quoi. Après, chacun y met
de sa personne, bah oui. de son investissement.
De sa sensibilité.
Alors, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est qu'en fait, aussi, en travaillant de cette manière-là, on s'est rendu compte que le texte était vraiment écrit aussi peut-être pour cette possibilité-là de mise en scène. C'est-à-dire mmh. que les sons qui sont introduits dans la mise en scène, ils sont à des moments particuliers et la phrase s'y prête vraiment. La phrase amène vraiment la pratique des sons bruts ou de l'instrument. C'est, mmh. L'architecture du texte mmh. permet cela aussi. Mmh. Permettait cela aussi. Bien mmh. que au départ, elle était écrite pour un récitant et un trio de jazz. C'est-à-dire que je pense que même si c'était écrit comme ça, Annie Mankell avait dans sa tête mm-hmm. la psychologie d'un personnage sur scène.
Mm-hmm. Mais de toute façon, il y a toujours bon, ce qui est écrit, le texte de base. Alors je ne sais pas si celui-là, il y a des didascalies ou pas, je ne sais pas. Non, très peu, j'imagine,
très peu,
puisque c'est
peu,
un récitant.
Très peu,
oui.
très peu.
Mais après, on sait qu'à partir du moment où un metteur en scène s'empare d'un texte, il y a tout, là aussi, c'est comme pour le comment dirais-je, comme le musicien qui prend l'œuvre d'un compositeur, il y a aussi la patte du metteur en scène. Enfin, il y a aussi sa vision des choses. Voilà quoi. Le texte, certes, c'est la base, mais après, qu'en
bien
fait-on
sûr.
Quoi? Comment le présente-t-on?
On peut faire ce qu'on veut, presque.
Comment le vit-on? Enfin, oui, ça dépend des tout dépend des ayants droit et tout ça, parce
bien
que
sûr.
Des fois, il y a des
précisions.
Oui.
Il y a des précisions de la part des ayants droit. Mais là, on a eu carte blanche et
c'est son fils qui a le comment dire pour avoir les droits. Vous
non, c'est un agent. En France, c'est un agent. C'est mm-hmm. Les descendants ont agent puisqu'il. Il est décédé en 2015.
Octobre 2015.
Oui, c'est mmh. l'archéditeur qui a les droits en France hein, de toutes ses productions.
De toutes les œuvres théâtrales.
Théâtrales.
Mmh. Oui, puisque oui. après, là, c'est dans d'autres domaines. que voulais-je dire ? Oui, tout à l'heure, quand vous parliez du fait qu'il évoquait aussi la cause des personnes, des Noirs, enfin, entre guillemets, je ne sais pas comment peut-on dire, enfin, des Noirs américains, des Afro. Il faut dire que quand bon, il vivait dans une partie en Suède, donc chez lui, enfin son pays d'origine, et ensuite donc une partie de l'année en Afrique, où il avait ouvert une école de théâtre, justement gratuite pour des jeunes du pays, avec qui il faisait du théâtre, avec qui il faisait des créations.
Il écrivait des textes, il mettait en scène,
oui,
et il travaillait bénévolement.
Bénévolement pour que tous ces jeunes puissent faire du théâtre.
Et c'était la seule compagnie professionnelle de ce pays-là.
Mm-hmm. Est-ce que vous souhaitez que nous écoutions quelques morceaux de musique? Je vais juste vérifier quelque chose. Je reviens.
Bien sûr. On va écouter une compression du répertoire de Miles Davis. Qui est évoqué aussi dans le spectacle. Mm-hmm.
Merci, donc ça fut très court.
C'est pour ça.
je vois pas, je n'arrive pas à aller. Oui, pardon. Donc nous cherchions voilà, le pays dans lequel allait Annie Menkel, où il passait une grande partie de l'année, disons, en Afrique.
Oui, il a vécu des périodes assez longues, puisque même...
C'était sur six mois. Enfin,
six mois, oui. À peu près. D'ailleurs, quand il est revenu, la première fois qu'il est revenu en Suède, il était déçu, justement par rapport au décalage peut-être entre la sensation de solidarité entre les personnes qu'il avait trouvées en Afrique et ce qui se perdait un petit peu en Suède. Mmh. C'est une petite remarque sociale.
Oui, d'ailleurs, dans ses romans, justement, puisqu'il a écrit aussi des romans, il parle de la société suédoise avec ses avantages et ses inconvénients, si je puis dire. C'est très bien dépeint. Je parle des romans. Il est très, comme ça, c'est très méticuleux, quoi. C'est vraiment au moins au détail près.
Oui, et puis aussi, c'était quelqu'un qui s'était... On retrouve ça dans la pièce, notamment dans ses romans policiers, il y avait un intérêt pour camper ses personnages sur la psychologie des personnages.
Bien sûr, il est assez fin, oui.
C'est très très bien. Oui. Et on retrouve ça dans la pièce, vraiment, on sent aussi bien de la manière dont il parle de Miles Davis et de la manière dont il parle aussi donc, de Steinar, le personnage central. On sent bien toute sa psychologie.
Mais... C'est un excellent portraitiste, je trouve, voilà, Annie Menkel. Dans ses romans, il y a des personnages assez, comment dire, assez originaux quoi, dans leur... dans leur manière d'être, quoi. Enfin, des personnages bien trempés, dirons-nous.
Oui, c'est
ça. Et c'est un excellent portraitiste.
C'est ça.
Et donc là, c'est le... Vous reparlez le nom du principal, comment dire ?
Steinar, voilà. Steinar, voilà. On sent très bien sa personne, cette personnalité qui avec peu de choses, la relation à son père. Il l'évoque avec deux, trois phrases. On voit bien qu'il avait un père assez dur, autoritaire, qui n'a pas compris pourquoi il s'intéressait au jazz. Et pourtant,
Lui annonce le décès de Miles Davis.
Donc, voilà. Il avait compris que c'était quelque chose de très important pour lui. Voilà, pour lui. Aussi, quelque part, la relation à sa femme, la relation d'amitié aussi
avec
le chauffeur.
Le chauffeur,
donc,
bien sûr.
Il y a plein de niveaux de lecture de la pièce. En
fait. Oui, finalement, ce qui comptait dans la vie de ce monsieur,
voilà,
ce qui était important
pour
lui.
Et qui le rend beaucoup plus humain. Et qui fait que c'est quelqu'un quand même de sensible et qui est capable d'émotion. Et c'est cette émotion-là qui on essaye de transmettre, pendant le spectacle, qu'il y ait des moments d'émotion et de sensibilité.
D'accord. Donc, c'est mis en scène par
Sylvie
Garel. Voilà. Vous jouez dans les deux sens du terme, si je puis dire, puisque vous dites et le texte, et puis vous jouez aussi de temps en temps des instruments.
Oui.
Vous allez, est-ce qu'éventuellement, vous avez envisagé de jouer davantage, justement, des instruments entre deux?
Alors, là, on est sur une formule d'une heure dix, qui est un petit peu formatée par rapport au Festival d'Avignon qu'on a fait l'été dernier, pour le festival l'édition 2017.
Vous allez jouer où, en Avignon?
Alors, ce sera au théâtre La Porte Saint-Michel à 17h, tous les jours.
Durant tout le festival.
On avait joué aussi cette pièce-là au Festival de Marciac en 2015, où ça a été un bon succès, puisque là, évidemment, le public...
Oui. Festival de jazz.
Voilà. Et donc, pour le moment, ce format-là, il se peut qu'ensuite, effectivement, on développe un petit peu le temps de musique pour l'étouffer un petit peu. On aura deux possibilités, quoi. Un format plus court d'une heure, le format qui est demandé un petit peu sur les festivals.
D'accord.
Et avoir pour les théâtres peut-être un format un peu plus long.
Oui, parce que jouer, si c'est vous qui jouez, c'est différent que si c'est un CD, quoi. Enfin voilà, c'est pas la même sensation.
Il faut bien préciser, voilà, c'est ça, qu'il y a une partie qui est live, c'est-à-dire que vous jouez des instruments sur scène, mais il y a aussi évidemment une bande son,
une
création sonore,
une partie enregistrée,
pour évoquer notamment sa venue à Paris.
Oui, pour dessiner cette trajectoire.
Voilà,
c'est un accompagnement, c'est pour. J'ai bien compris. Mais après, le fait, puisque vous êtes musicien aussi, d'où l'intérêt aussi, voilà, que vous jouiez en direct, quoi, si on
voilà,
peut dire.
C'est ça.
Avec les mots et les notes.
Et, voilà. Et le plaisir est là.
D'accord. Et donc, ça, c'est la semaine prochaine. C'est sur une semaine, vous jouez au fil à plomb, vous commencez mardi, j'imagine.
Alors, ça sera le 2 mai, à partir du 2 mai, du 2 au 6 mai, à 19h, au fil à plomb.
C'est à 19h, c'est sûr ?
À 21h, excusez-moi, je répète bien, c'est à 21h. Parce que d'habitude, la dernière fois, c'était à 19h. Donc, ça sera bien du 2 au 6 mai à 21h au fil à plomb à Toulouse.
Place Arnaud Bernard, en fait.
On va dire ça.
Oui, place Kerseret, voilà, plus exactement. Dans le théâtre fil à plomb qui a été rénové en courant automne.
Voilà, c'est ça. Okay. Qui était fermé le premier semestre pour finir les travaux, qui a ouvert fin décembre.
Et si vous voulez lire la pièce, donc, c'est Miles Davis au coucou de Montreux, c'est aux éditions de l'Arche.
C'est ça.
Qui est donc une maison d'édition qui consacre beaucoup, enfin, qui travaille beaucoup pour le théâtre. Merci beaucoup.
Merci bien.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Merci.